Nous connaissons tous les zones industrielles qui bordent les villes de leurs bâtiments métalliques, séparées par des parkings aux places tracées sur des mers de goudron. Si la journée, ces espaces s'animent des va-et-vient des voitures qui déposent les travailleurs et les clients, un reflux se produit généralement en début de soirée. Ce dernier ramène tout le monde au port, qui généralement se situe assez loin de ces espaces, qui prennent alors une allure un peu inquiétante et fantomatique. C'est justement sur une zone industrielle que nous vous amenons aujourd'hui. Et celle-ci semble avoir reçu une visite nocturne inattendue.
Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent.
Il est monté avec une vitesse.
Et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers.
C'était plus qu'un point d'ancien.
L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
Le truc, en fait, il bifurque, il fait un angle à 90 degrés et il s'en va, mais face à nous, à une vitesse absolument indescriptible, ahurissante.
Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, lumière nocturne sur la zone industrielle. Rendons-nous donc sur la zone industrielle dite du Piquet, près de la petite ville d'Étrelles, en Ille-et-Vilaine, sur laquelle la nuit est tombée, depuis un moment maintenant, car il est 23h. Le silence est à peine troublé par quelques voitures qui passent sur la route nationale toute proche, qui relie Rennes à Laval. Ce 1er juin laisse entrevoir de beaux jours à venir, car le temps est clair, et le ciel bien dégagé. Un petit air d'été avant l'été. Sur la route déserte, qui passe entre les bâtiments, apparaît lentement une voiture. La barre de gyrophare sur son toit laisse peu de doute sur ce que vient faire ce véhicule ici, en pleine nuit. Il s'agit bien d'une patrouille de deux gendarmes qui vient s'assurer que le calme règne. Pour cela, la voiture roule à très basse vitesse, autour de 20 km/h, et les deux fonctionnaires à bord scrutent attentivement les bâtiments, vérifie qu'il n'y ait pas d'infraction et surveille les éventuelles lumières émises par des lampes torches à l'intérieur des bâtiments. Le gendarme côté passager devine alors des lumières inhabituelles, tellement inhabituelles qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il voit. En effet, deux lumières viennent d'apparaître au-dessus d'un bâtiment à droite de la voiture des gendarmes. Le chauffeur freine brusquement en s'écriant « Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le temps qu'il comprenne ce qui se passe, les lumières ne sont plus visibles sur le côté. Il se penche donc vers le tableau de bord et tourne la tête. Il y a quelque chose au-dessus de la voiture. En effet, il voit clairement deux spots de lumière blanche avec des reflets verdâtres suspendus dans le ciel. Le gendarme relève que ces lumières, si elles sont nettement visibles, n'émettent ni halo, ni faisceau ou rayon, juste cette couleur blanche teintée de vert. Il semblerait également que ces lumières ne soient pas spécialement dirigées vers la voiture. Le chauffeur devine entre les projecteurs une masse sombre, pas très volumineuse puisqu'il la compare à celle de deux monospaces mis côte à côte. Il remarque quand même que cette masse sombre cache les étoiles qui continuent de scintiller autour de ce supposé objet. Mais pas le temps d'essayer de mieux comprendre le phénomène, car ce dernier se remet en mouvement après 2 secondes passées au-dessus de la voiture, et part en angle droit par rapport à sa trajectoire initiale. Donc, arrivé sur le côté droit de la voiture sur un axe sud-nord, il se dirige maintenant dans le sens de la circulation initiale du véhicule, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Les gendarmes voient donc les lumières s'éloigner à très grande vitesse à travers le pare-brise. Il semble que l'objet prenne une trajectoire légèrement descendante, avant que les lumières ne disparaissent brusquement. A-t-il piqué vers le sol ? Ou est-ce une impression liée à la distance mise entre le véhicule et l'objet, qui finalement aurait pu disparaître à l'horizon, donnant cette impression de trajectoire descendante. Les deux gendarmes sont sous le choc, médusés. Cette brève apparition de 3 ou 4 secondes les a laissés sans voix. Et ils ont donc vécu cette étrange expérience, chacun de leur côté, sans communiquer. À la disparition des lumières, chacun d'entre eux se retourne vers son collègue. Est-ce qu'il a vu la même chose ? À l'expression de surprise et de stupéfaction affichée sur leurs visages respectifs, ils comprennent, sans avoir à parler, que le collègue a également vu le phénomène. Les deux gendarmes, dans leur voiture, reprennent leurs esprits et commencent à échanger sur ce qu'ils ont vu. D'abord, ils vont faire la liste de ce que cette observation ne peut pas être. Les hypothèses, avion, hélicoptère, drone, illusion d'optique, phénomène météo ou phénomène atmosphérique, sont écartées lors de ce premier échange à chaud. Ils décident d'appeler le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie pour leur signifier leur étrange mésaventure. Puis ils sortent de la voiture et en font un tour rapide et font un examen de l'environnement pour essayer de documenter au maximum le contexte de cette observation. Enfin, ils décident sagement de ne pas parler plus de l'observation elle-même pour ne pas s'influencer. Et ils décident qu'ils mettront chacun de leur côté par écrit leur témoignage. Ils reprennent donc finalement leur route à travers les bâtiments industriels, silencieux, chacun se refaisant certainement le film des 3 secondes qui a fait exploser la monotonie de leur ronde préventive dans la zone industrielle.
Alors, que pensez-vous de cette histoire ? Simple méprise ou phénomène plus mystérieux ? Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
Alors, les voitures s'envolées par un ovni, ça on aime bien, parce que ça nous rappelle bien sûr tous les classiques de l'ufologie, à commencer par notre fameux rencontre du troisième type.
Ouais, sauf que là c'est dommage, on n'a pas la suite classique de ce genre d'histoire. La voiture qui s'arrête et tous les appareils électriques qui se détraquent et tout ça, mais bon, le cas n'en est pas moins intéressant.
Oui, alors on n'est pas dans un film effectivement, mais bon, on a déjà 2 témoins, ce qui renforce quand même la consistance. Et en plus... Ben, ces témoins, de par leur profession et tout ça, sont très crédibles.
Ah oui, ils ont de très bons réflexes. Par exemple, ils ont choisi de ne pas se parler entre eux de ce qu'ils ont vu pour ne pas s'influencer. Et ça, très bon réflexe, parce que ça, on l'a vu dans l'épisode avec Antoine Mourato, le psy qui collabore avec le GEPAN. La mémoire, ça fonctionne par reconstruction.
Ben oui.
Donc, s'il lui manque des éléments, le cerveau va naturellement compléter afin de reconstituer une histoire cohérente. Et si les témoins se parlent trop entre eux, le risque, c'est qu'ils s'induisent des faux souvenirs. Et là, ça devient compliqué à gérer parce que c'est très, très compliqué de dissocier un faux souvenir d'un vrai. Dans les deux cas, le témoin est de bonne foi.
Ouais.
Alors, pour en revenir à notre histoire, donc les témoins ont eu ce réflexe sain de ne pas polluer leur témoignage avec les souvenirs de l'autre, donc bien joué.
Bah oui, bien joué. Et en plus, le rapport précise qu'ils n'ont aucun problème ophtalmique, quoi, ni l'un ni l'autre, ou de traitement quelconque qui pourrait altérer leur jugement. Donc, pour en finir sur la crédibilité des témoins, sur l'appréciation des distances aussi, ils sont très prudents. En fait, ils sont très prudents sur tout un tas de choses.
Oui, ça, c'est plutôt un signe de lucidité de leur part, parce que la plupart des témoins surestiment leur capacité à évaluer les distances et la taille des phénomènes. Parce qu'on sait que quand on observe le ciel, quand on n'a pas de repères connus dans le ciel, bah, il est quasiment impossible de connaître la taille et la distance du phénomène. Et en revanche, il est toujours possible d'évaluer la taille angulaire, même sans connaître la distance. Mais là aussi, cette mesure n'est pas exempte de biais. La plupart des témoins surestiment la taille angulaire des phénomènes observés.
Ah oui, bah alors, attends. Comment tu peux affirmer que les témoins surestiment la taille angulaire des phénomènes non identifiés, alors que par définition, comme ils sont non identifiés, on ne connaît pas leur taille?
Oui, c'est vrai. Alors, il y a un test simple que font les enquêteurs du GEPAN, c'est de demander aux témoins la taille angulaire de la Lune, qui pour le coup, elle est connue de tous.
Normalement.
la plupart des témoins l'aperçoivent beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est vraiment. Voilà, ça c'est ce qu'on constate. Probablement parce que c'est quelque chose qu'on voit bien dans le ciel, on a l'habitude. Mais la taille apparente de la Lune, c'est tout petit. C'est un demi-degré, c'est l'équivalent de l'ongle de votre petit doigt vu à bout de bras, donc c'est tout petit. Et d'ailleurs, on peut rappeler au passage que la Lune qui n'est pas plus grosse quand elle est basse sur l'horizon, ça c'est un effet d'optique. Et donc, tu sais, quand tu entends parler de super lune et tout ça, tous ces trucs dont raffolent les réseaux sociaux, c'est juste pour faire du clic. Il n'y a rien de physique, hein, la lune elle a toujours la même taille et il n'y a rien de perceptible à l'œil nu. Bon, je ferme la parenthèse. Pour en revenir à notre cas, il se trouve que les témoins sont plutôt doués pour évaluer la taille angulaire, parce que dans le test de la lune, ils ne se sont trompés que d'un seul niveau dans les différentes possibilités présentées par les enquêteurs.
Alors justement, puisque tu parles des enquêteurs, il y en a deux sur ce cas. Est-ce que tu sais pourquoi il y en a deux? D'habitude, un seul suffit.
Ouais, en fait, ça arrive que les enquêteurs du GEPAN travaillent en binôme, et de plus en plus souvent d'ailleurs. Mais ça, ça a plusieurs avantages, et notamment ici, dans notre cas, bah, ça permet d'interroger les témoins séparément et en même temps. Et ça, ça permet que le témoin et l'enquêteur sont moins susceptibles d'être influencés par le témoignage de l'autre.
Oui.
Parce que les biais, ça touche les témoins, mais aussi les enquêteurs. Bon, dans tous les cas, l'organisation est la même. Un des enquêteurs est le référent, celui qui est en charge du dossier, et l'autre est identifié comme, en quelque sorte, son assistant, qui vient l'épauler.
Mmh.
Et ses rôles changent d'un cas à l'autre. Un même enquêteur peut passer de référent à assistant, ou inversement. Ce qui est important, hein, c'est que le référent soit clairement identifié vis-à-vis des témoins, pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire.
Ok, d'accord, bon. Alors, on a parlé des acteurs en place, les témoins d'un côté, les enquêteurs de l'autre. On peut maintenant attaquer l'enquête à proprement parler.
Voilà, alors sur la méthode d'abord, le GEPAN a déclenché ici une enquête terrain, tu sais, par opposition aux enquêtes à distance qui peuvent être faites aussi. Et l'enquête terrain a permis aux enquêteurs de rencontrer donc les témoins sur place, de les interroger et de procéder à une reconstitution sur site pour prendre des mesures précises sur la localisation du phénomène et aussi son horaire, on verra plus tard que c'est important.
Donc ils ont pu approfondir leur récit qu'ils avaient livré à l'écrit. On le rappelle, hein, ce sont deux lumières blanches, vertes, qui semblent provenir d'un objet massif survolant le véhicule des témoins. Et ils ont une nette impression de proximité avec le phénomène.
Ouais, et le phénomène apparaît presque à la verticale du véhicule. Comment on sait ça? C'est parce que le premier témoin dit avoir dû se pencher pour le voir à travers le pare-brise. Alors ce qui est intéressant ici, c'est justement d'étudier les similarités et les différences entre les deux témoignages, par exemple sur la trajectoire. Le premier témoin a estimé que le phénomène était resté en position stationnaire quelques secondes avant de disparaître vers l'est. Le deuxième témoin, lui, l'a vu arriver du nord vers le sud, puis bifurquer, virer de bord vers l'est. Donc, ils sont d'accord sur la trajectoire finale, sur la direction finale, pardon, mais ils ont perçu différemment la trajectoire. Et ça, c'est pas très étonnant parce qu'ils étaient dans une voiture en mouvement et ils observaient un phénomène lui aussi en mouvement. Donc dans cette situation, c'est vraiment pas facile d'évaluer les trajectoires. Mais pourtant, le fait de savoir si le phénomène a suivi une trajectoire rectiligne ou pas a une importance capitale dans ce dossier, comme on le verra plus tard quand on va aborder les hypothèses.
Oui, et des hypothèses, on a l'impression, en lisant le rapport, que ces témoins en ont fait quand même pas mal.
Oui, et c'est un peu normal dans leur situation, ils essaient juste de comprendre ce qu'ils ont vu. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'ils vont plutôt procéder par élimination. Et ils vont surtout évoquer avec les enquêteurs et entre eux ce que ce phénomène n'était pas. Alors d'après eux, ce n'était pas un sky tracer. Tu sais, les sky tracers, c'est les espèces de rayons laser là, qu'il y a au-dessus des boîtes de nuit notamment. Tout simplement parce qu'ils ont regardé et puis il n'y a pas de boîte de nuit dans les environs à moins de 20 km. De plus, on sait que le temps était clair, donc ça colle pas. Et de la même façon, ils ont validé en avance des hypothèses, l'avion, l'hélicoptère, un drone, une illusion d'optique et encore un phénomène météorologique.
Ah oui, ça, on l'a vu dans l'épisode, mais alors justement, on se pose la question, il reste quoi?
Ben justement, eux, ils sont arrivés au bout de leurs hypothèses et chargent aux enquêteurs de prendre le relais. Mais avant de formuler leurs propres hypothèses, ben les enquêteurs, ils vont faire comme d'habitude. Hein. Et d'abord, l'étape préalable, c'est de collecter les informations de contexte. On va voir ce qu'il y avait dans le ciel et dans l'environnement immédiat des témoins ce jour-là. Alors si on commence de façon traditionnelle maintenant par la météo, on l'a dit, le ciel était clair et étoilé, pas de couverture nuageuse. Du côté de l'environnement physique, la reconstitution a permis de constater que les conditions d'observation étaient excellentes. Il n'y avait pas de bâtis, il n'y avait pas de végétation qui pouvait obstruer la vue. Si on regarde maintenant du côté des données aéronautiques, le GEPAN a fait appel, comme d'habitude, au Centre National des Opérations Aériennes, qui a été sollicité. Et le CNOA a répondu qu'aucune trace, aucune trace radar inhabituelle n'a été détectée ce soir-là, en dehors des avions de ligne habituels, mais qui ne peuvent être confondus avec ce qu'ils ont vu. Mm. Donc, en gros, rien à signaler de ce côté-là. Alors, au final, pas grand-chose à se mettre sous la dent, jusqu'à ce qu'on s'intéresse aux données astronomiques.
Oui, alors ça paraît avoir du sens, puisque le ciel était dégagé. Alors, d'où l'importance de commencer par des données météo.
Et là, on a une information intéressante en provenance du BOAM. Le BOAM, c'est la base de données des observateurs amateurs de météores. Et c'est une bonne source d'information pour savoir ce qui se passait dans le ciel ce jour-là, parce qu'ils ont des caméras un peu partout en France. Et ce soir-là, à peu près à la même heure, et à peu près au même endroit, un bolide a été observé au-dessus de la France.
Alors peut-être que ça serait pas inutile de rappeler ce que c'est un bolide.
Oui, alors c'est tout simplement un gros météore qui traverse l'atmosphère et s'y consume. En gros, c'est une étoile filante, mais en un peu plus gros. Et justement, ce gros caillou va rentrer dans notre atmosphère exactement à 21h12:30, d'après le BOAM. Donc il a traversé la France de part en part, de la Bretagne à l'Alsace, donc vers l'Est. Pour l'heure, on est presque cohérent, et pour la direction, on est bon. Donc peut-être que là, on tient notre explication.
Bon, la direction, c'est cohérent, d'accord, mais qu'en est-il de son emplacement dans le ciel ?
Alors, beaucoup moins. En fait, on a un écart de 40 degrés entre l'azimut observé par les témoins et les données du BOAM. Donc, ça commence à être un peu beaucoup comme marge d'erreur.
Ouais. Il faudra prendre en compte une marge d'erreur sur l'horaire aussi, puisque les témoins observent le phénomène à 21h05 et le bolide est passé à 21h12. Mais on parle d'heure astronomique.
Il s'agit en fait du temps universel. En heure d'été, il faut rajouter 2 heures au temps universel, ce qui nous ramène à l'heure d'observation, 23h07.
Alors, oui, mais le truc, c'est que 7 minutes d'écart, c'est pas beaucoup, ce serait acceptable si les témoins n'avaient pas un moyen précis d'évaluer l'heure d'observation. Mais dans ce cas, on l'a dit au début, les témoins sont très lucides, ils ont des bons réflexes et ils ont pris des repères pour alimenter leur témoignage. Et pour préciser l'heure de l'observation, l'entretien cognitif a permis de faire émerger une information très précieuse. Après avoir observé le phénomène, les témoins ont parlé entre eux des hypothèses possibles avant de décider d'arrêter, comme on le disait au début.
Ouais, non.
Et donc là, ils ont pris la décision d'arrêter d'en parler pour ne pas s'influencer. Et c'est alors qu'un des témoins va appeler un de ses proches pour lui raconter ce qu'il a vu. Donc finalement, là, on a un moyen précis de retracer l'heure, puisque d'après son téléphone, cet appel a eu lieu à 21h12, donc à l'heure de l'apparition du bolide. Donc ça veut dire que leur observation était antérieure de quelques minutes, 4-5 minutes avant, donc on retombe bien sur les 21h05 du témoin. Donc, grosse marge d'erreur sur l'azimut, grosse marge d'erreur sur l'heure. Là, notre hypothèse bolide, elle est clairement affaiblie.
Ah oui, bon, ben alors, quelles sont les autres hypothèses qui ont pu être considérées par les enquêteurs ?
Alors, pour être exhaustif, les enquêteurs ont formulé d'autres hypothèses. La foudre en boule, une hallucination aussi, pourquoi pas. Un satellite, une lanterne et même un reflet sur le pare-brise de la voiture. On a déjà eu un cas dans un épisode précédent, c'était ça, tu te souviens? Mais bon, voilà, ces hypothèses, je passe les détails, mais ils ne résistent pas à l'analyse. Et finalement, ils sont tous considérés comme très peu probables.
D'accord. Donc là, ça nous fait une étrangeté forte, une bonne consistance, et tout ça, ça sent le cadet non résolu.
Voilà, et j'ai oublié une hypothèse mentionnée dans le compte-rendu d'enquête, celle d'un, je mets des guillemets, un objet volant, une forme matérielle qui pour le moment reste non identifiée, donc finalement c'est un ovni au sens littéral.
Voilà.
Et à ce stade de l'enquête, c'est cette hypothèse qui est considérée finalement comme la plus crédible. Donc oui, tu as raison, ce cas a été classé en catégorie D, cas non résolu. D1 pour être plus précis, tu sais, il y a une gradation entre les D. Hein.
Bien sûr.
L'enquêteur précise, là aussi je cite, l'incertitude sur la trajectoire d'apparition du phénomène, son caractère de grande brièveté, l'interdépendance des deux témoins qui ont aussitôt échangé sur leur observation interdisent un classement en D2 en l'absence de photographie ou de vidéo.
Ah, c'était pas loin pourtant, je pense là. On rappelle, hein, il n'y a toujours pas de cas D2 sur le site du GEPAN, alors on espère vraiment que ça sera le cas bientôt, et auquel cas, bien sûr, on vous l'a promis, on vous le racontera tout de suite. Bon, ben c'était quand même un beau cas DE, hein, à défaut de DE.
Avec une belle enquête, oui.
Bien sûr. Et moi, j'aime bien les cas inexpliqués. Et je t'avoue que quand tu as évoqué l'histoire du bolide tout à l'heure, j'ai bien cru que l'affaire était pliée. Donc,
Je pense bien que les enquêteurs l'ont cru aussi.
Voilà, je suis content de ce twist, comme on dit. Et je trouve que c'était un très beau cas.
Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion ? Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.